France Inter, le 18-20.
La journée internationale des droits des femmes, c'était mercredi 8 mars, comme tous les ans. Mais pour nous, c'est tous les jours qu'il faut réfléchir à cette question. Alors ce soir, on ouvre le débat, au téléphone sonne. Quelle priorité pour les femmes en 2017? Quelles mesures à prendre d'urgence pour résorber les inégalités qui ont la vie dure et pour garantir aux femmes l'accès à leurs droits en général? On tentera de répondre à ces questions à travers vos interpellations. On s'arrêtera aussi sur les programmes des candidats à 6 semaines de la présidentielle, les programmes et surtout les actes, car les promesses, c'est bien beau. On tentera aussi un bilan du quinquennat dans ce domaine. Pour en parler, nous sommes avec Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des Femmes, qui vient de publier « Tu seras une femme », guide féministe pour ma nièce et ses amis. C'est aux éditions Les Petits Matins. Bonsoir Anne-Cécile Maillefer.
Bonsoir.
Avec nous également la politiste Réjeanne Sénac, chercheuse au Cevipof, dont le dernier livre s'intitule « Les non-frères au pays de l'égalité ». C'est aux presses de Sciences Po. Bonsoir Réjeanne Sénac.
Bonsoir.
Et bien sûr, toujours à nos côtés, l'anthropologue Françoise Héritier, que l'on ne présente plus, auteur entre autres de Féminin masculin, une pensée en mouvement. Alors si vous souhaitez participer à cette émission, deux solutions, un message sur le net avec le mot Estelson ou le téléphone, le numéro du standard est toujours le même, 01 45 24 7000, n'hésitez pas.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et pour commencer, nous allons au standard de France Inter justement, car nous avons un appel de Paloma, qui nous appelle du Calvados. Bonsoir, Paloma.
Bonsoir.
Et peut-être d'abord une petite précision sur ton âge.
J'ai 10 ans.
Et tu as souhaité nous appeler ce soir?
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que moi, j'ai 10 ans, donc du coup, moi, j'aimerais bien savoir, parce que j'entends à la radio parler justement des droits des femmes, qu'elles sont maltraitées, qu'elles sont mal payées. Et du coup, moi, ça m'inquiète pour plus tard parce que j'aimerais bien, moi, du coup, avoir une vie bien payée, tout comme les hommes. Et du coup, comme on se rapproche de la présidentielle, je voulais savoir si ça va s'améliorer.
Eh ben, c'est une excellente question. Paloma, nos invités vont te répondre. Mais moi, j'aimerais quand même te poser encore une question avant de parler de ton avenir et de plus tard. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les garçons aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont machos, les garçons, avec toi, avec tes copines? Comment ça se passe?
Alors, moi, je suis plutôt justement avec des garçons. Et du coup, ça se passe bien. Je préfère plus être avec des garçons qu'avec les filles. Et il y a des garçons, oui, comme vous dites, qui sont machos, mais pas tous, en fait.
En fait, t'as pas trop de problèmes avec les garçons, mais tu t'inquiètes plutôt pour la suite, quoi.
Oui.
Parce que ça te révolterait d'être payé moins?
Bah oui, parce que on aime bien être bien payé, et quand on entend, par exemple, ma mère, elle est pas très très bien payée, donc du coup, parfois je m'inquiète un peu.
Bah écoute, t'as entièrement raison de t'inquiéter, et j'espère que tout ira bien pour toi. On va demander à nos invités un petit peu ce qu'elles en pensent. Qui souhaite réagir? La première, Anne-Cécile Maillefer? De la Fondation des Femmes.
Oui, bonsoir. Alors, effectivement, penser à son avenir et le voir un peu noir comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu peur quand on entend les chiffres qui sont aujourd'hui ceux des violences faites aux femmes, des inégalités salariales. Maintenant, a priori, tu es déjà conscientisée, donc ça va te permettre aussi d'affronter finalement les épreuves et les obstacles, et de pouvoir aussi les surmonter avec plus de conscience et en te battant. Donc ça, moi, je t'invite à rejoindre évidemment les femmes qui se battent.
Et moi, je précise, peut-être je donne un conseil à Paloma, et bon, 10 ans, elle est peut-être un petit peu jeune, mais qu'elle lise ensuite le livre que vient de publier Anne-Cécile Maillefer, Tu seras une femme. C'est un petit guide féministe qui est vraiment très bien fait, formidable. Toutes les réponses à toutes les questions, bon, avec une vision évidemment combattante des choses. Anne-Cécile Maillefer, vous pouvez continuer.
Oui, ben justement, ce livre, en fait, je l'ai écrit pour que les jeunes femmes ou les femmes, d'ailleurs, de tout âge, qui commencent à se poser ces questions, qui se rendent compte qu'effectivement la vie, elle va être plus compliquée parce qu'elles sont femmes, puissent comprendre qu'en fait les discriminations qu'elles vivent sont liées, qu'il est important de les comprendre comme étant un tout lié, de les aborder comme ça, et de se rendre compte aussi que ce qui nous arrive à soi arrive à d'autres femmes, et que donc ensemble on peut se battre pour faire changer les choses. Et pour, par exemple, aussi, évidemment, dans cette période, interpeller les candidats à la présidentielle, puisque il est vrai que ils vont potentiellement être à la tête du pays et donc ils vont pouvoir mettre en place des choses qui vont impacter l'avenir de nos filles et il est essentiel que les femmes soient au centre aussi tout autant que les hommes de la vision du futur qu'ils peuvent dessiner pour la France.
Alors il y a quelque chose de très intéressant aussi dans la question de Paloma, là je me tourne vers vous Réjeanne Sénac, c'est qu'elle a évoqué la question du salaire. Or il se trouve que mercredi il y a eu un rassemblement à Paris, il y en a eu dans d'autres villes également, sur la question des inégalités salariales très précisément, avec un appel à la grève à partir de 15h40, puisque les femmes sont toujours payées moins que les hommes. Comment se fait-il, alors que ça c'est déjà dans la loi depuis des lustres maintenant, il y a eu plusieurs lois, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire appliquer cette égalité salariale?
Alors tout d'abord, je voudrais dire, comme vous l'avez souligné, que Paloma a des raisons de s'inquiéter, en particulier sur les questions d'égalité salariale, puisqu'en moyenne, les femmes touchent un quart en moins par rapport aux hommes. Mais je pense qu'il est important en effet de dire qu'il y a des lois, en particulier portées par l'Europe, depuis des directives depuis les années 70, mais que si on n'y arrive pas, alors que ce sujet a l'air de faire complètement consensus. Et d'ailleurs, quand on regarde le programme des candidats à la présidentielle, on pourrait être rassuré dans un premier temps en se disant, de l'extrême droite à l'extrême gauche...
Les intentions, elles sont là.
Les intentions sont là, en tout cas sur l'égalité salariale. Mais ce qu'on voit, c'est que l'égalité salariale, c'est l'expression, l'inégalité salariale plutôt, c'est l'expression de toutes les inégalités, toute l'éducation différenciée qui existe depuis la naissance des enfants. C'est structurel. Je suis bien sûr d'accord pour qu'on dise aux petites filles et aux petits garçons de changer les choses, d'agir pour porter l'égalité, mais je pense, et on est bien placé aujourd'hui pour le savoir, puisqu'on est en période préélectorale, qu'il faut voir que c'est éminemment politique, éminemment structurel, et qu'il faudrait pas que cette pauvre Paloma, dans quelques années, se dise, après tout, c'est ma faute, je me suis pas assez engagée si je subis encore des inégalités. Donc je suis bien sûr d'accord avec Anne-Cécile quand elle dit qu'il faut s'engager individuellement, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est éminemment politique et juridique. Et on voit bien, quand on regarde les programmes des partis politiques, que maintenant, on peut se réjouir que la question de l'égalité, et en particulier de l'égalité salariale et de la lutte contre les violences, est un engagement qui fait consensus. Mais après, quand on regarde les programmes eux-mêmes, la manière dont ce que ça dit de la conception de la place des femmes et des hommes dans la société, on voit bien que là, on est dans des clivages droite-gauche très marqués. Et en particulier, je pense qu'on va en reparler, qu'on a toute une rhétorique autour de la liberté des femmes à la droite de l'échiquier, aussi bien de la part de François Fillon, dont les propositions s'appellent « Pour la liberté des femmes », où on voit qu'on est dans une logique quand même de protection, plus de protection et de défense des droits des femmes, et que la lutte contre les violences ou la lutte pour l'égalité salariale rentre dans cette logique, mais aussi avant tout un modèle de protection du modèle de la mère, de la complémentarité entre le père et la mère, et puis un point commun avec...
Parce que d'ailleurs, il met même François Fillon protéger les enfants contre la violence à la rubrique droits des femmes.
Voilà, donc on est vraiment dans un modèle de sous la terminologie de liberté, on est avant tout sur une protection et une modernisation de ce modèle de la complémentarité papa-maman, avec cette idée d'articulation des temps de vie. On voit bien qu'il y a un point commun d'ailleurs avec le programme de Marine Le Pen. Marine Le Pen dit très peu de choses dans son programme de 2017, moins d'ailleurs que dans le programme de 2012 sur ces questions-là. C'est dans la rubrique « Refaire de la France un pays de liberté ». Et on voit qu'il y a aussi d'ailleurs des points communs avec le programme de Nicolas Dupont-Aignan. Mais dans celui de Marine Le Pen, il y a juste trois phrases. Défendre les droits des femmes, lutter contre l'islamisme qui fait reculer leur liberté fondamentale, mettre en place un plan national pour l'égalité salariale et lutter contre la précarité professionnelle et sociale. Le point commun avec François Fillon, c'est cette idée d'associer le sexisme uniquement à une stigmatisation des musulmans comme les seuls qui porteraient le sexisme en France. On, malheureusement, c'est une vision complètement idéalisée et raciste de ce qu'est notre République française. Donc je crois que là, il faut être très vigilant sur ce que ça porte comme stigmatisation. Et en plus, on voit bien que pour des raisons électorales, Marine Le Pen a tout intérêt à mettre en scène cette posture qui, pour moi, est une imposture de l'égalité femmes-hommes. À la gauche de l'échiquier, très clairement, on est plutôt sur le registre non pas de la liberté, mais de l'égalité. Et je pense que Paloma a porté plus... bien sûr qu'on porte la liberté au sens de l'émancipation, mais l'égalité est essentielle. Et très rapidement, on a du côté de Jean-Luc Mélenchon, ils viennent de sortir une petite rubrique.
Alors c'est vraiment archi récent.
Voilà, archi récent. Un petit livret qui s'appelle « Égalité femmes-hommes, abolir le patriarcat, donc on voit bien qu'on n'est absolument pas sur la même tonalité. De la même manière, pour Benoît Hamon, on est sur un registre qui est celui de penser l'individu, quel que soit son sexe, et de lui donner les moyens d'être à égalité. Donc je dirais à Paloma, comme je pense à tous les auditrices et les auditeurs et tous les citoyens et les citoyens, lisez à la fois les programmes et puis regardez en quoi ils sont en cohérence avec la pratique des élus, puisque d'un côté Marine Le Pen se dit pour l'égalité.
Comment ils ont voté notamment,
exactement,
hein, au cours
comment
des dernières années.
Aussi bien les parlementaires nationaux que les parlementaires européens. Et on verra bien que là, on est dans une imposture puisque toutes les lois qui étaient pour la progression de l'égalité femmes-hommes n'ont pas été votées par les représentants élus du Front National.
On va passer la parole à Françoise Héritier. Peut-être souhaitez-vous réagir à cet appel de la jeune Paloma qui nous a appelé, Françoise Héritier?
Oui, un tout petit peu. Mais je pense que les réponses qui ont été faites, j'y souscris totalement, à savoir que c'est quelque chose d'éminemment politique et qui commence déjà par le choix des filières d'enseignement et la possibilité pour les filles de poursuivre des études assez longtemps. Je ne dis pas qu'il faudrait que tout le monde parvienne au niveau de la licence, de la maîtrise ou de la thèse, mais enfin, il semblerait que les filles sont arrêtées assez tôt dans les disciplines des mathématiques, physique, économie, etc. Alors que elles pensent souvent qu'elles ne sont pas capables de le faire. Alors, et même, je ne dirais pas que les professeurs les encouragent dans cette vision négative de leur capacité, mais en tout cas, tout l'entourage a l'air de dire que c'est difficile pour une femme de réussir dans ce type de métier. En fait, je crois que ce qui est important pour Paloma, comme pour toutes les autres, c'est d'avoir confiance dans leur capacité. Déjà, d'avoir confiance dans leur capacité de lutter, mais en même temps de faire travailler leur intelligence et de choisir d'apprendre et de comprendre, apprendre de façon à avoir des emplois qui les intéresseront. C'est-à-dire que bien sûr, il faut être vigilant sur la paye, comme elle dit, sur le salaire, sur la rétribution du travail, mais il faut aussi avoir des exigences sur l'intérêt que l'on peut avoir pour le travail que l'on aura à mener une bonne partie de sa vie. Et maintenant, bien sûr, je sais qu'on passe d'un travail à un autre, mais il n'empêche que ce qui est bien, c'est d'avoir du plaisir, disons un minimum de satisfaction dans le travail que l'on est amené à faire. Donc il ne faut pas nécessairement le subir, et c'est pour cela qu'il faut lutter.
On repart au Standard de France Inter. Alors cette fois, ce n'est pas une jeune Paloma qui nous appelle, c'est Gisèle qui s'inquiète, je crois, pour sa fille, Gisèle de Chartres. Bonsoir Gisèle.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, je ne m'inquiète pas pour ma fille, elle est combative. Mais c'est ce que je disais, c'est que moi je me suis toujours battue pour la condition de la femme et là je passe le flambeau à ma fille justement qui a 22 ans et je me rends compte qu'elle se bat encore pour les mêmes choses que nous. On s'est battu. Et comme moi je me suis battue avant pour ma mère, mes grands-parents, j'ai l'impression que voilà, on en est encore à se battre pour des choses qui sont bénignes, j'ai envie de dire. Qu'on ait le même salaire, qu'on ait une reconnaissance.
Ça avance à petits pas, hein.
Pardon ?
Ça avance à tout petits pas.
Voilà. Et encore.
Il faut rester vigilant.
Tout petit pas, hein. Tout petit pas. Bon, c'est ça, qu'on en est encore aux mêmes choses. En 2017, on en est encore là. Et ça me désole.
Un grand merci, Gisèle, pour cet appel. Anne-Cécile Maillefer.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ça avance, mais en même temps qu'on a face à nous des réactions très fortes qui vont prendre des formes un peu nouvelle, un peu différente. Donc le combat, il est évidemment d'actualité parce que on n'a pas encore les chiffres le prouvent, on n'a pas encore l'égalité, mais aussi parce que face à nous, on a quand même un retour de la domination masculine sous d'autres formes. On va avoir soit un discours qui va être extrêmement cru, très fort, très facile à reconnaître,
de
Zemmour, voilà, de Trump par exemple, mais plutôt les idéologues comme Éric Zemmour qui vont expliquer qu'en fait la perte de puissance de la France est liée à ce qu'il appelle la féminisation du pouvoir. Et puis on a d'autres formes de nouvelles formes en fait de la domination masculine qui vont être ce qu'on qu'on appelle les masculinistes, qui vont en fait se parer d'un discours progressiste et se parer en fait reprendre les avancées des féministes, c'est-à-dire reprendre les discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, pour en fait remettre la main sur les femmes et leurs familles. On a eu un exemple assez concret en France. Ce sont les pères qui sont montés sur les grues pour demander la garde partagée obligatoire. La garde partagée pour les hommes, évidemment, les féministes sont tout à fait d'accord. D'ailleurs, on se félicite que des pères veulent ainsi s'engager dans la répartition des tâches. Mais néanmoins, le problème, c'est que dans ce cas précis, on n'est pas du tout sur un élan de partage des tâches. On est plutôt sur un retour en arrière vers vraiment le modèle patriarcal en fait assez classique d'un homme qui veut avoir le pouvoir sur ses enfants. Aux États-Unis, une des traductions politiques concrètes du masculinisme, ça a été au début du mois de février en Arkansas, quand la loi qui autorise les hommes à interdire à leurs femmes d'avorter, ou en tout cas aux femmes qui sont enceintes d'eux d'avorter, a été passée. Donc ça veut dire que très concrètement, sous couvert d'égalité, puisque les hommes devraient, l'égalité femmes-hommes, en fait, quand on ne n'analyse pas sous le prisme de la domination masculine, on peut faire des très très grosses erreurs. Et donc, par exemple, là, c'est dire, puisque les femmes, puisqu'il doit y avoir égalité, les hommes aussi doivent décider dans le cas de l'avortement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils décident, par exemple, d'empêcher les femmes d'avorter. Et donc, on leur retire la liberté, liberté sur leur propre corps. Donc, ça change. L'environnement change. Une autre chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que les nouvelles technologies aujourd'hui, Internet, le numérique, sont en train de créer de nouveaux espaces publics, on va dire, un peu comme dans la rue, sauf que c'est immatériel. Et on va voir se répéter exactement les mêmes mécanismes d'exclusion des femmes de ces espaces-là. Ça va être du cyberharcèlement et non plus du harcèlement de rue. Mais résultat, les femmes vont quitter Twitter, quitter Facebook ou prendre des pseudonymes ou éviter de parler trop fort, entre guillemets, c'est-à-dire éviter de donner trop leur opinion sur leur statut Facebook ou Twitter, de peur d'avoir en face des répercussions de harcèlement. Et donc on va avoir des nouveaux champs, en fait, puisqu'il y a des nouveaux champs d'expression de la domination masculine qui sont extrêmement inquiétants. Et si, encore une fois, on ne pense pas le monde de demain en y mettant les femmes au cœur et en pensant l'égalité femmes-hommes dans le monde de demain, on va, par exemple, dans le cas des nouvelles technologies, se mettre à répéter exactement les mêmes schémas sous d'autres formes, dans les nouveaux espaces, dans les nouvelles technologies qui sont en train de façonner nos modes de vie, de relations, de production.
Vigilance absolue, Réjeanne Sénac, rien n'est jamais totalement acquis aussi.
Et oui, je pense qu'il faut se rendre compte et être très lucide et pas se dire « je suis pessimiste en ayant ce regard », que notre héritage, si rien n'est acquis, c'est parce qu'à la fois c'est très récent. Je pense qu'il faut vraiment être lucide sur notre héritage, qui est un héritage à la fois sexiste, homophobe, raciste. Donc quand on se bat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi plus largement pour l'égalité, on voit bien que la bataille est loin d'être gagnée. À la fois parce qu'on doit résister par rapport à un héritage, et aussi, et je crois que c'est très important de le dire, et quand je citais les programmes, on le voit bien, malgré une apparence aujourd'hui de consensus sur l'égalité femmes-hommes, nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que nous mettons sous ce terme-là, et nous n'avons pas la même conception de ce qu'on juge juste pour les femmes et pour les hommes dans notre société. On l'a bien vu dans l'opposition contre l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe, donc et ou à l'opposition aux enseignements pour l'égalité à l'école élémentaire, en particulier à l'expérimentation des ABCD. Donc je crois que, oui, battons-nous et ayons conscience que le chemin sera long, comme tout chemin pour l'égalité.
On repart au standard, c'est Christian qui nous appelle cette fois-ci, du Rhône, visiblement. Françoise Héritier, je vous passe la parole juste après, parce qu'il va nous interpeller, Christian. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel, hein, je vous remercie. Simplement, ce que je veux dire très rapidement, c'est que le combat, moi je suis marié, j'ai des filles, pour moi le combat du féminisme c'est un combat auquel je participe pleinement et totalement quoi. Et je trouve que si vous voulez dans ce domaine, il m'est arrivé même de vouloir participer à certaines réunions, voire même à rentrer dans certaines associations du féminisme, et en tant qu'homme on vous regarde des fois presque comme une sorte d'extraterrestre. Moi je pense que dans ce domaine-là, tous les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est un combat pour l'humanisme et qui seraient prêts à participer à ça, qui seraient prêts. Donc essayons de faire ça tous ensemble. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'appuyer sur toutes les bonnes volontés, qu'elles soient féminines et aussi masculines, pour changer le cours des choses et faire en sorte que les choses évoluent, quoi.
Eh ben, merci, voilà. Christian.
Merci.
Nous, on vous prend avec nous, il y a pas de problème. Françoise Héritier.
Oui, je voulais dire déjà à ce monsieur que si on le regarde comme un extraterrestre, c'est qu'il est un extraterrestre. Parce que dans les réunions, toutes les conférences que j'ai pu donner, les réunions que j'ai pu tenir, il y a toujours des femmes, alors que le sujet devrait intéresser les hommes et les femmes. Et quand il y a des hommes, généralement, on s'aperçoit que c'est le preneur de son, le preneur d'images, mais que ce ne sont pas véritablement des auditeurs.
Alors, il faudrait plus de Christian, en tout cas.
Alors, il faudrait plus de Christian. Alors, c'est pour cela qu'il est vu comme un extraterrestre. Maintenant, mais par les gens qui se retournent sur lui. Mais enfin, qu'il soit certain que c'est un extraterrestre bien accueilli, en tout cas.
On repart.
Alors, attendez, donc,
pardon,
je voulais revenir
Françoise Héritier, oui.
Sur ce qu'on avait dit précédemment. C'était pour
le
dire...
Le fait que les choses n'étaient pas toujours acquises.
Non, les choses ne sont pas toujours acquises, et même elles vont prendre beaucoup de temps, mais il faut surtout comprendre que le rapport homme-femme est au fondement, dans sa hiérarchie telle qu'on le connaît, il est au fondement de toutes les sociétés depuis l'origine. Et que c'est la base fondamentale de toutes les sociétés. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire sauter, puisque c'est une création de l'esprit. Donc il est possible de le faire sauter. Mais il faut avoir conscience, de façon politique, encore une fois, que ce n'est pas un artefact qui est né au fil des siècles et donc on pourrait dater, je vois parfois avec stupeur qu'on date le machisme ou certains comportements d'il y a 8 siècles, 10 siècles. Mais non, il a toujours existé d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait cette représentation fondamentale de l'inégalité et avec ce qui l'accompagne, naturellement, tout un corps de jugement négatif. Et c'est ce corps de jugement négatif qui doit être, pour moi, enfin en tout cas, qui est la priorité des priorités. Car si on ne donne pas une image totalement égale à celle des hommes, c'est-à-dire en continuant d'avoir des jugements qui sont des jugements, encore une fois, négatifs des femmes, on ne peut pas leur accorder l'égalité, qu'elle soit salariale, qu'elle soit domestique, qu'elle soit intellectuelle, etc. Il faut donc lutter contre les stéréotypes et les préjugés.
Dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On part cette fois à Montpellier, c'est Thomas qui est en ligne. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous appeler.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Moi, c'est pas une question, c'est une réflexion que je me fais. Si déjà au Parlement et à l'Assemblée nationale, il y avait une réelle égalité homme-femme, je pense que ça changerait beaucoup de choses parce que quand vous avez des députés femmes qui se font siffler dans l'Assemblée nationale, moi je trouve déjà que le problème, il faut le prendre par la tête. Dans le Sud, on a une expression, on dit « le poisson pourrit toujours par la tête ». Ça en dit long, en fait, sur le comportement des individus vis-à-vis les hommes vis-à-vis des autres. Et ma remarque, c'est que moi, je suis du milieu infirmier. Je suis infirmier.
Et donc, vous travaillez avec beaucoup de femmes.
Je travaille avec beaucoup de femmes qui ne sont pas considérées comme le sont les hommes par les médecins. Si on a des médecins hommes en face de soi, une infirmière ne sera pas considérée de la même manière qu'un infirmier. C'est-à-dire il y a un rapport, comme une dissonance, si vous voulez, un rapport qui est tout à fait différent. Et ça m'interpelle beaucoup, parce qu'il y a encore cette présence ancienne de ce machisme, comme disait la personne qui était à l'antenne tout à l'heure. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Et je pense que déjà, si on changeait les mentalités dans les facultés, dans les établissements universitaires et l'enseignement supérieur, on changerait à terme aussi les comportements dans les institutions.
Merci, voilà. Merci beaucoup Thomas pour ce témoignage. Vous avez évoqué au tout début la représentation nationale avec des hommes politiques qui se permettent de siffler les femmes politiques. Ça, c'est pour vous, Réjeanne Sénat, qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet de la représentation politique. Où est-ce qu'on en est dans ce domaine ?
Alors, On est assez mal placé au niveau international, hein, puisque dans le classement des pays en ce qui concerne la proportion de femmes dans les chambres basses uniques en France à l'Assemblée nationale, on est 63e. Et ce que je trouve intéressant dans la question de l'auditeur, c'est que il dit bien, avec en plus une métaphore tout à fait intéressante, que il est toujours délicat de faire le distinguo entre le haut et le bas, et que en ce qui concerne ces questions en particulier d'égalité femmes-hommes, il faut vraiment le voir comme un système. Et le fait que les femmes étaient exclues du pouvoir, pour faire un clin d'œil avec sa métaphore, c'est parce qu'on considérait qu'elles n'avaient pas de tête. En tout cas, elles étaient perçues comme étant trop du côté du naturel et ne pouvant pas prendre la distance nécessaire pour prendre des décisions de manière avec la raison et non pas des instincts naturels. Donc très clairement, le fait qu'elles étaient exclues du pouvoir et qu'encore aujourd'hui, ce pouvoir ultime qui est le fait de décider des lois est en grande majorité, aux trois quarts, plus de trois quarts, puisqu'il n'y a que 27% de femmes parlementaires en France, assumées par des hommes et qu'elles sont rappelées à leur nature d'être à la fois qui caquettent au lieu de penser, comme en particulier dans ce genre dans ces moments un peu triviaux de l'Assemblée nationale. Et pour moi, tout à fait intéressant, pas tant pour exprimer sans doute le décalage qui peut nous apparaître de ces hommes-là, mais par le fait que ces hommes-là, ils parlent de notre histoire, comme le dit Françoise Héritier. Ils disent ce que disait Jean-Jacques Rousseau à l'époque, quand il disait « ce n'est pas l'œuvre du préjugé, mais de la raison d'exclure les femmes de la citoyenneté active et du fait qu'elles puissent être des représentants politiques et voter, puisque les femmes, il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe, la femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse ». C'est assez goujat, vous l'aurez noté, hein, pour un grand homme comme Jean-Jacques Rousseau. Mais ça, c'est au soubassement même de notre République française. Et je pense que tant qu'on n'a pas accepté ça et qu'on n'a pas déconstruit ça, on ne portera pas réellement l'égalité du haut en bas de notre société.
Alors, un mot quand même juste des législatives qui se profilent, parce qu'on a déjà parlé de la présidentielle. On sait qu'il y a une femme qui est susceptible, a priori, d'arriver au deuxième tour de cette présidentielle. Il y a une deuxième candidate aussi, c'est Nathalie Arthaud. Au niveau des législatives, Régène Sénac, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut laisser supposer qu'il y aura plus de femmes à l'Assemblée ou pas du tout cette année? Enfin, pas grand-chose. Au niveau des investitures, de ce qu'ont pu décider de faire les partis politiques?
C'est vrai qu'on voit que maintenant ça devient du marketing politique de dire qu'on va mettre des femmes à parité aux législatives ou qu'on va en mettre plus. Il y a une loi qui est une loi incitative, hein, puisque les lois dites sur la parité pour les législatives, c'est sous forme de pénalisation financière assez forte, hein, qui vont encore durcir, hein, pour les prochaines élections législatives. Mais on voit bien que pour moi, il y a un jeu dans lequel est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, cette espèce de marketing politique qui d'ailleurs joue sur les candidats, parce que ceux qui disent « je vais avoir autant de femmes que d'hommes » ou « je veux », hein, c'est sur les candidats. Ce qui compte entre nous, c'est les élus, et l'auditeur l'a bien compris. Donc, il est à la fois très important d'en voir des femmes, puisque si on considère que les femmes et les hommes ont les mêmes qualités et les mêmes compétences, alors qu'elles sont à moitié représentées dans la population française, le fait qu'elles ne soient qu'à un quart à l'Assemblée nationale montre bien qu'elles subissent des discriminations structurelles. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont féministes, et l'élection présidentielle actuelle le montre bien. Donc il faut juger les femmes et les hommes sur leurs compétences, sur leurs idées, de la même manière, sans aucune discrimination, mais sans aucune protection ou douceur quand on juge que ces positions ne sont pas des positions légitimes.
Anne-Cécile Maillefer, en deux mots, quand même un mot du quinquennat qui s'achève, plutôt positif ou qu'est-ce que vous diriez ? On a commencé, en tout cas au niveau des femmes, par un ministère de plein exercice. Après, ça s'est un petit peu gâté. Mais si on fait le bilan des actions?
Alors, c'est vrai qu'on a eu quand même pour la première fois un gouvernement paritaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu triste de devoir se féliciter de ça en 2017, mais on en est encore là quand même. Donc oui, un gouvernement paritaire, ça c'est extrêmement important. Un ministère de plein exercice, c'est extrêmement important. Maintenant, nous, à la Fondation des Femmes, on a fait un rapport sur le sujet qui s'appelle « Où est l'argent pour les droits des femmes ?» où on notait quand même bien qu'il y avait un petit problème en termes de moyens qui étaient mis sur la table. C'est-à-dire, le ministère des droits des femmes était quand même le ministère le moins doté, 0,006% du budget de de l'État, c'est absolument ridicule. Il y a eu des choses qui ont avancé aussi sur le champ de la loi, qui ont parfois été un petit peu détricotées par des lois successives. Je pense par exemple sur l'égalité salariale, il y a des choses qui avaient avancé dans la loi de 2014 de Najat Vallaud-Belkacem, puis qui ont été détricotées par la loi Rebsamen. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui ont avancé. Maintenant, si on veut vraiment qu'en 2017, on puisse faire en sorte que le prochain quinquennat transforme des choses concrètement dans la vie des femmes, il y a une chose qui manque, c'est l'argent. On ne peut pas transformer les choses si on n'investit pas sur le sujet. Il y a des associations fantastiques qui font du travail de terrain incroyable, il faut absolument les soutenir. Et aujourd'hui, c'est ridicule l'argent qu'on met sur la table. Donc oui, il faut des lois, mais ensuite il faut des moyens de les faire appliquer. Et là, c'est là que le bât blesse, en France, mais comme ailleurs dans le monde, mais particulièrement en France. On peut pas venir à bout de la violence contre les femmes si on fait pas un grand plan avec des moyens sur la table. On peut pas venir à bout des inégalités salariales si on toutes ces choses-là, si on n'investit pas, même financièrement, si on pense pas que c'est quelque chose d'important pour la nation sur lequel il est important de mettre un budget conséquent, ça pourra pas changer dans la vie des gens. C'est mathématique.
On repart au standard de France Inter. On va entendre Marie-Thérèse dans une seconde, mais d'abord Karima. Est-ce que Karima, bonsoir. Vous êtes un peu loin de votre téléphone, non?
J'ai oublié d'appeler. Moi, ça me d'appeler le centre pour avoir les clés.
Bonsoir Karima, vous êtes sur l'antenne de France Inter. On n'a pas les clés, mais vous pouvez peut-être nous poser votre question.
Bonjour, excusez-moi. Voilà. Alors, ce n'est pas une question, c'était juste une intervention, enfin, une remarque. C'est que moi, pour ma part, je suis donc une femme. Je prône, mais bien entendu, pour l'égalité des femmes. Mais moi, je la pense pas comme vous la pensez. C'est-à-dire que je pense que nous sommes complémentaires. Un homme et une femme sont complémentaires. Ils ont besoin de l'un et l'autre. Et quand vous parlez d'égalité, moi, je trouve que les femmes qui essayent d'être égales à des hommes...
Il va falloir aller répondre, Karima.
Oui, et ben, les femmes qui sont égales à des hommes, elles ont toujours il faut qu'elles essayent d'être comme un homme, en fait. Donc, en fait, elles ne sont pas des femmes, elles essayent de faire comme les hommes.
Merci, Karima. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je crois que vous pouvez aller répondre, à défaut d'avoir retrouvé les clés. Merci à vous. On enchaîne avec Marie-Thérèse, qui nous appelle, elle, de Bretagne. Bonsoir, Marie-Thérèse.
Bonsoir. Et je souris d'entendre l'auditrice précédente, parce que moi, je voulais vous parler du problème des femmes qui sont toujours obligées de délaisser leur carrière pour s'occuper de la scolarité des enfants, des loisirs, des vacances, et à l'autre bout de la chaîne, de leurs parents âgés. Et comme me disait une intervenante tout à l'heure, bien sûr, il faut de l'argent. Mais c'est un choix politique. Et moi, je me suis beaucoup battue pour la violence faite aux femmes, les violences conjugales, les violences familiales, les violences des femmes à qui on impose, par exemple, d'accoucher sous X, parce que j'étais assistante sociale et j'ai rencontré ça de nombreuses fois. Et moi, j'ai vécu la violence, mais une violence tacite, douce, c'est-à-dire de sacrifier la moitié de ma carrière pour m'occuper et des enfants et de mes parents âgés. Mon mari ayant une profession libérale, évidemment, et mes frères étant aussi dans des professions qui ne leur permettaient pas de s'occuper de leurs parents âgés. Donc c'est quand même nous les femmes, et c'est contraire à ce que l'auditrice disait tout à l'heure, j'ai pas envie du tout d'être un homme, mais j'ai envie d'être traitée comme un humain.
Voilà, et qu'on partage les tâches. Un grand merci Marie-Thérèse pour cette intervention. Françoise Héritier.
Je ne peux que souscrire, être traité comme un humain, c'est-à-dire nous sommes la moitié de l'humanité et il faudrait que les choses soient entendues telles quelles. Mais c'était un témoignage tout à fait remarquable parce qu'il est, je crois, celui qu'une grande majorité des femmes d'âge mûr, enfin pas des jeunes filles, pourraient faire de leur propre cas. Parce que je crois que la plupart des femmes, j'ai dit plus de mon âge, mais des âges, de vos âges, vous qui êtes ici, ont connu ces doubles tâches et ces triples tâches quand il convient de s'occuper justement des parents âgés atteints d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Et elles ont à faire face à la totalité. Travail professionnel, travail domestique, le travail parental, et qui est doublé puisqu'elles s'occupent de leurs enfants et de leurs parents. Et ça, c'est une grande majorité majorité des femmes mûres, encore une fois, en France, qui se trouvent dans cette situation.
Effectivement, et nous avons aussi Anne par mail qui nous dit exactement la même chose. On a fait le choix avec mon mari d'une vie de famille nombreuse, 4 enfants. Comme il n'y avait pas de service de garde, je suis restée femme au foyer, engagée dans beaucoup d'associations. Dans 7 ans, je toucherai une retraite à taux plein, je toucherai royalement 500 euros par mois. Ce choix d'investissement pour la famille et la vie sociale solidaire sera-t-il un jour reconnu? Quand ça concerne les enfants, ça concerne les vieux parents, Régène Sénac. C'est un vrai souci.
Alors, là, on parle des conditions de possibilité de l'égalité. Et en effet, les conditions de possibilité de l'égalité, c'est d'avoir les moyens, quel que soit notre sexe, de pouvoir s'impliquer à égalité dans toutes les sphères et pas d'avoir à articuler. Et là, on voit bien dans le programme des partis politiques qu'il y a des distinguos entre la droite de l'échiquier qui est plus dans cette idée de conciliation par les femmes de leurs différentes vies familiales et professionnelles, alors qu'à la gauche de l'échiquier, on le voit bien chez Benoît Hamon, mais aussi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, cette idée que, par exemple, le fait de mettre en place un service public à la petite enfance pour Benoît Hamon, mais aussi le fait de pouvoir mettre un service public pour le troisième et le quatrième âge, permettrait que les femmes aient les mêmes opportunités et ne soient pas handicapées par cette fameuse complémentarité qui est une construction sociale très piégeante et qui ne permet pas d'être à égalité.
On fait un dernier tour de table parce que cette émission se termine. Anne-Cécile Maillefer, la priorité des priorités pour vous, ce serait quoi?
Mais ce serait voilà un ministère avec un vrai budget pour pouvoir faire. Moi, je rêve d'un grand plan contre les violences où en fait il y a un candidat qui se dit, qui puisse dire et affirmer. Moi, je veux que dans 5 ans, il n'y ait plus 80 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol. Il n'y ait plus 230 000 femmes battues. J'aimerais vraiment qu'un candidat puisse voilà s'engager sur des chiffres, sur dire voilà moi ça fait partie de mes priorités de faire baisser les chiffres des violences qui stagnent quand même, mais depuis des décennies. Donc il est temps vraiment d'investir sur ce sujet. Ce sont des centaines de milliers de femmes en France, chaque année, qui sont victimes de ça. C'est une urgence.
Françoise Héritier, le mot de la fin, pour vous.
Non, pour Réjeanne. non.
Réjeanne, elle aussi, on va lui donner la parole.
La priorité des priorités pour moi, c'est de faire tomber les stéréotypes et les préjugés. Parce que ils sont, c'est-à-dire de s'attaquer au socle dur de nos représentations qui a été transmis depuis vraiment la plus grande préhistoire. Depuis l'origine de l'homme pensant. Et donc, si on pouvait arriver par l'éducation, mais pas seulement l'éducation scolaire, l'éducation y compris au foyer. Et c'est par là que ça commence, à faire en sorte que nos enfants puissent grandir sans être touchés par ces systèmes de représentation totalement qui déstructurent la personnalité, qui font extrêmement mal pour les femmes notamment qui en sont victimes. Je crois que nous aurions fait un grand pas.
Un grand merci Françoise Héritier. Le tout dernier mot de la fin, Réjeanne Sénac. Après, je vais quand même rappeler le titre de vos livres à toutes.
Alors, moi je crois qu'au pays de l'égalité, il faut qu'enfin on tienne nos promesses et qu'on les porte pas que pour des frères, mais pour tous les individus, et que les enfants qui naissent de Paloma et tous les autres soient des individus à part entière, pour reprendre Aimé Césaire qui parlait de citoyens à part entière, et en particulier je pense qu'un vrai service public, à la fois à la petite enfance mais aussi du troisième et du quatrième âge, et en particulier à la petite enfance avec des horaires adaptés aux horaires atypiques et qui porte une éducation à l'égalité avec des pronoms neutres, un rapport neutre, pour qu'on soit tous réellement égaux dans cette belle France qui, j'espère, sera enfin celle de l'égalité demain.
Merci beaucoup Réjeanne Sénac, Les Non-Frères, Au pays de l'égalité, Anne-Cécile Maillefer, Tu seras une femme, petit guide féministe. Merci aussi à Françoise Héritier, dont je ne peux pas citer tous les livres tellement ils sont nombreux. Merci à vous Françoise Héritier d'être restée 2 heures avec nous. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Irène Menahem, Jérémy Younes. À la réalisation ce soir, Eric Lenné. À la technique, Arnaud Caillé, Loïc Frapsos, Raphaël Rousseau.